Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez La Librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien de la librairie des étudiants. Aujourd'hui, nous entrons dans un récit, le récit d'un homme, d'un ami, pour dire adieu à un être cher. Pour dire adieu, c'est le titre du récit que nous ouvrons aujourd'hui, un texte publié aux éditions Jaillet en janvier 2026. Et nous en parlons aujourd'hui avec son auteur. Bonjour Gérard Amiel.
Bonjour Thomas.
Merci infiniment d'avoir accepté de nouveau cette invitation.
C'est un grand plaisir pour moi.
De revenir au micro de la librairie des étudiants. Pour dire adieu, récit d'une amitié avec l'écrivain Hubert Mingarelli. C'est le texte qui est une photographie d'une rencontre de deux hommes qui vont se compléter dans leur quête de connaissances, de réflexion autour de questions plus ou moins profondes. Mais avant cela, c'est aussi la rencontre d'un homme, vous, Gérard Amiel, avec des mots, avec un texte, le roman L'Arbre d'Hubert Mingarelli. Au détour d'une librairie, cette rencontre est un point de bascule dans votre vie.
Oui, tout à fait. J'adore fouiller au sein des librairies à la recherche du livre rare que je n'aurais pas connu, que je n'aurais pas encore pu lire. Et donc j'étais très souvent présent à la librairie de l'université à Grenoble. Et un jour où je cherchais particulièrement des petits romans, parce que j'avais beaucoup eu l'habitude de lire de très gros romans classiques, enfin. J'étais donc dans cette librairie à genoux, à la recherche, en quête de quelque chose. Et quelqu'un de la librairie me tend ce livre, sans véritablement me dire si j'allais apprécier, pas apprécier, ce que j'allais en faire. Donc j'ai pris ce livre, je l'ai lu, et ça a été pour moi une rencontre extraordinaire, d'emblée, avec ce texte.
Quelles ont été les émotions ?
Je crois que ce qui m'a énormément touché dans ce livre, c'est que quelqu'un osait raconter ce que pouvaient être les tourments, même très graves, les tourments de l'enfance, puisque le livre raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est frappé d'une phobie qui l'empêche de se déplacer dans l'espace et qu'il va, par son intelligence, sa finesse, ses tentatives, résoudre de lui-même. C'est là où on voit les capacités de l'intelligence humaine, y compris chez les enfants. Et vous savez, moi j'étais dans un champ, le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse, donc j'avais beaucoup lu Freud. Freud parle d'ailleurs d'un cas de phobie infantile qu'on appelle le petit Hans, qui était quelque chose de très formateur pour les jeunes cliniciens que nous étions. Et ce livre d'Hubert, je le trouvais à mains égards, à la hauteur même de ce que Freud avait pu écrire. Pourquoi à la hauteur de ce que Freud avait pu écrire ? Parce que justement, Freud avait un certain arsenal théorique pour aborder la question. Et Hubert l'abordait d'une manière purement humaine, sans avoir lu la psychanalyse. Et ce qu'il disait dans ce texte était d'une immense pertinence clinique. C'est ça qui m'a sidéré, en quelque sorte.
Et de là, vous lui avez écrit ?
Alors, je me suis autorisé à le faire. Je ne savais même pas que c'était un auteur qui vivait dans la région. Et donc j'ai écrit par le biais de l'éditeur en courrier, en lui expliquant à quel point j'avais été touché par son livre, en lui donnant mon adresse, mon téléphone, et 2-3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Hubert Mingarelli qui me demandait d'aller le rencontrer. C'était assez près de Grenoble finalement, et que je suis parti. C'était un jour, il avait beaucoup neigé, un peu comme aujourd'hui, et c'était un jour d'ensoleillement après la neige. Et on s'est retrouvé au bord d'une route vers chez lui. Et puis, notre amitié a commencé comme ça. Pour lui, je crois qu'il avait été extrêmement touché que quelqu'un donne de l'importance à ce texte-là. Parce que c'était un texte qui était passé inaperçu. Vous savez, c'est toutes les questions de problématisation de l'édition. Certains éditeurs vont classer certains textes dans littérature jeunesse pour les enfants.
Ce qu'il était au début, d'ailleurs.
Mais en vérité, ce texte qui a été publié en littérature jeunesse, pour moi, n'était pas du tout un livre de littérature pour la jeunesse, même si un enfant était mis en scène dans l'histoire.
Est-ce que c'est parce que aussi vous aviez le regard du psychanalyste, justement ?
Probablement que j'ai été touché à un endroit, oui, dans la manière dont cet enfant tentait de tisser quelque chose, dans ses propres mots, dans ses propres insuffisances, dans ses propres trébuchements. Ça m'a énormément intéressé. Lorsque j'ai pu raconter tout ça à Hubert, parce que je lui ai raconté ce que j'avais été, combien j'avais été touché par son texte, qu'est-ce qui m'avait intéressé dans son texte. Pour lui, il m'avait dit que j'avais renoncé à ce que ce texte soit entendu, d'une certaine façon. Et le regard que je portais sur son livre lui donnait à ce livre une seconde naissance.
Livre de l'arbre, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus édité.
Oui.
On espère peut-être que par la présence de votre livre, il reviendra enfin sur les étagères, parce que les Mangari, on les a quasiment tous en librairie.
Oui.
Et celui-là, curiosité, on ne sait pas trop.
Oui.
Ce récit, c'est aussi forcément le récit d'un deuil d'amitié.
Oui.
Parce qu'on le découvre au long de toutes ces pages que vous allez en fait quasiment grandir ensemble, en plus
oui.
de cette amitié, cette relation très singulière que vous avez. Et il y a aussi des mots très forts que vous avez à l'endroit du deuil, comment l'exprimer. Vous écrivez justement, page 18, c'est le premier extrait que j'aimerais lire. « Aussi inattendu que cela puisse paraître, il ne suffit pas pour épuiser la peine de s'interroger sur qui nous avons perdu, ni sur ce que nous aurions perdu à travers celui ou celle qui fut affectionné, mais plus subtilement d'opérer un renversement contraire à notre imagination ou à notre paresse, afin de cerner l'objet que nous étions pour l'autre et qui, par sa disparition, a été perdu, nous perdons nous-mêmes aussi un peu. Quelque part là-dedans, chaque fois que quelqu'un part, on perd un peu de nous-mêmes. »
Ah oui, complètement. Et on perd aussi une singularité d'un lien. Parce que les choses ne sont pas reproductibles à l'infini. C'est faux. Même si on a plusieurs amis, ces amis sont tous différents dans le lien que nous avons avec eux. Et perdre quelqu'un, c'est aussi perdre une modalité d'existence qu'on a pu avoir avec cette personne qu'on aura perdue, vous voyez. C'est vrai que ce livre, c'est aussi le récit d'un deuil, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, vous le disiez tout à l'heure, d'une certaine façon, grandit ensemble, c'est vrai, je crois que c'est le cas quand on a une authentique relation de parole avec quelqu'un. Quand on a une authentique relation d'échange très profond, on peut se dire les choses vraiment telles qu'elles sont, pas telles qu'on imagine qu'elles devraient être, etc. À l'issue de cet échange-là, on est transformé, même si on ne s'en rend pas compte. On est transformé, et à plus forte raison quand une relation dure pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'à l'issue de notre lien, lui avait été transformé par notre rencontre, et je me suis rendu compte, pas tout de suite, mais pas venu immédiatement, combien le fait de l'avoir connu m'avait aussi transformé à un certain endroit, et en particulier autour de ce que j'essaie de dire un petit peu discrètement, de la relation à mon propre père, si vous voulez.
Et on y viendra, bien entendu. Il y a aussi cette question donc, de la parole, des mots, et très vite aussi la question de l'art, mais de l'art avec un A majuscule dans ses formes les plus diverses, ici forcément l'écriture, vous c'est forcément oui peut-être ou pas d'ailleurs, la compréhension de la parole, de par le métier de psychanalyste. Et puis, pourquoi écrire?
Oui.
Et ce qui était drôle, c'est qu'avec cette relation... Donc vous, c'était la question que vous posiez à Hubert, et Hubert vous posait la question, mais Gérard, pourquoi les mots?
Oui.
Pourquoi cette parole?
C'est ça. Il y avait une sorte de réciprocité dans un intérêt de quelque chose qui nous tourmentait d'une certaine façon. J'ai toujours été intéressé par la question de l'écriture. J'ai toujours été intéressé par ce qui pouvait nous pousser à écrire. Pourquoi écrire, finalement? Et lui était tout à fait intéressé par cette affaire de « mais pourquoi parle-t-on ? Pourquoi peut-on aller rencontrer quelqu'un pour parler ? Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un de singulier, non pas n'importe qui de notre entourage ?» Et finalement, en arrière-plan de notre lien, il y avait toujours cette double question, toujours qui était là, même si, bien entendu, nos échanges étaient très divers. On peut vraiment dire que malgré cette diversité, il y avait en fond cette interrogation qui finalement reste toujours un mystère. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais véritablement y répondre une fois pour toutes.
Très vite dans votre récit, vous dites qu'Hubert Mangarelli écrivait ce que l'on ne pouvait dire naturellement. Sa façon à lui justement d'employer ces fameux mots.
Oui.
Ça rejoint la dimension donc, que l'art saisit ce que les nombreux théoriciens n'ont pas forcément su faire à travers la psychanalyse. Est-ce qu'il vous parlait aussi de souffrance dans ses séances d'écriture? Et dans la discipline aussi qu'il s'imposait?
Oui, je crois que j'étais à un certain endroit très respectueux de sa démarche, surtout dans notre monde consumériste où on voit bien comment beaucoup d'engagements se font à travers la recherche d'une facilité pour soi, d'un avenir voyez, qui serait plus radieux, etc., etc. Non, ce n'était pas du tout le cas d'Hubert Mingarelli. C'était quelqu'un qui avait découvert que quelque chose de sa propre vérité se trouverait dans l'écriture d'un texte. Et il s'y a donné avec une rigueur, une régularité, que je trouvais fantastique dans notre monde moderne. Vraiment fantastique. D'une certaine façon, ça faisait aussi écho à ce que peut être la vie d'un analyste, vous savez, c'est-à-dire d'être appendu au texte de quelqu'un qui vous parle. Mais je trouvais qu'il y avait là quelque chose d'une solitude dans l'écriture, que l'on rencontre sûrement beaucoup moins dans la psychanalyse, parce que dans la psychanalyse, vous recevez des gens, vous êtes en présence d'autres. Là, il était obligé de maintenir une adresse vers quelque chose d'un peu abstrait. Il écrivait pas à quelqu'un de précis, mais son écriture allait vers quelque chose. Mais il le faisait tout seul. Et je trouve vraiment que cette dimension de la solitude de l'homme, capable finalement de construire un chemin un peu inédit, ça méritait vraiment un très grand respect, oui.
Alors il y a la parole, il y a l'écriture. Vous racontez aussi qu'Hubert Mingarelli, c'est aussi de très nombreux silences.
C'est vrai.
L'économie de mots. Alors dans ses écrits, on y reviendra aussi, qu'il passait des journées, matinées entières à écrire, il ne gardait qu'une quinzaine de lignes. Vous interrogez donc voilà, cette économie de mots, ses écrits dans ses paroles. Et quand on écoute d'ailleurs ses réponses aussi en interview, c'est très concis, extrêmement précis. Pourvu qu'il est aussi analyste, Gérard, qu'est-ce qu'il disait d'Hubert Mingarelli, ces fameux silences que vous aviez dans vos discussions, justement? Qu'est-ce que ça disait de lui?
Oui, nous avions ces silences. Il y avait sa respiration, je me rappelle, qui était très prégnante, qui marquait le fait qu'il abordait quelque chose sûrement dans sa pensée qui méritait de mettre l'accent sur ce qu'il était en train de réfléchir, ce à quoi il était en train de réfléchir. Ces silences, je crois que c'était une façon pour lui de dire entre les lignes. C'est-à-dire qu'on peut évidemment expliciter, objectiver ce que l'on dit, bien sûr que c'est déjà quelque chose de difficile, mais je trouve encore plus subtil de faire entendre quelque chose que l'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'on va entendre en creux tellement c'est tout le temps absent. C'est tellement absent que ça finit par questionner tout le monde et que finalement, ça va être aussi puissant qu'un cri, alors même que rien n'aura été dit. Et j'aimais beaucoup cette façon qu'il avait, si vous voulez, de tisser, de broder, de trouver le chemin. Et en même temps, si vous voulez, ce qui était intéressant dans sa démarche, c'est que c'était une manière de ne pas prendre le lecteur par la main, c'est-à-dire de tout lui donner. La lecture d'Hubert nécessitait d'y mettre du sien. C'est-à-dire aussi de réfléchir à ce qu'il avait voulu nous dire, mais également à ce que nous pouvions entendre dans ce qu'il nous avait dit et qu'il n'avait peut-être pas forcément voulu nous dire. Vous voyez, quand on lit, on invente aussi quelque chose de ce que l'on lit.
Une interprétation. D'ailleurs, il le dit, parce qu'à la fin de ce récit d'amitié, il y a aussi un entretien que vous retranscrivez avec lui, qui était donc en 2006. Oui. Et justement, il explique, il vous répond que une fois que le livre est publié, dans tous les cas, il y a 1000 interprétations possibles. Oui. Autant de lecteurs, autant de films possibles d'un livre.
Et d'une certaine façon, il disait qu'une fois qu'un livre avait été écrit, ce livre ne lui appartenait plus. C'est-à-dire qu'il lui échappait. Hein. Le livre le prenait, le tourmentait, l'intéressait, le polarisait pendant tout le temps de l'écriture. C'était vraiment ça qui était l'axe principal de son parcours. Mais une fois que le livre avait été écrit et qu'il était publié, c'est comme s'il le lâchait dans le monde. Et on venait donc à trouver une nouvelle matière d'écriture. Toute sa vie a été construite comme ça.
Pour en revenir au silence, vous dites que ça voulait dire quelque chose de très fort, comme un fantôme, quelque chose de non-dit qui était dans la pièce.
C'est ça.
Est-ce que c'était aussi, en tout cas, si on met en parallèle avec l'arbre, on a pu l'évoquer un petit peu il y a quelques instants, la place du père aussi, une absence paternelle, une importance dans la construction aussi de l'enfant, parce qu'on dit souvent que les enfants grandissent avec leur traumatisme.
Oui, tout à fait.
C'est ça qui les définissent.
Et aussi quelque chose que vous aviez noté, le fait qu'il y avait souvent une absence de figure féminine dans ces textes.
Oui.
Hein? Ça aussi, c'est très parlant. C'est très, très parlant. Alors, Hubert était un homme qui aimait les femmes, qui a été marié, qui a eu des enfants, etc. Mais dans ces textes, il y avait toujours cette absence qui nous interrogeait. Hein. Peut-être qu'une très bonne manière, en effet, de faire entendre ce qui nous a manqué, c'est de le mettre sous le coup d'un certain silence dans un texte. Mmh. Et je crois, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je risque de me répéter, mais je crois, si vous voulez, Thomas, que le silence, le manque d'une chose, le fait de ne pas la dire, de ne pas l'évoquer explicitement, c'est une façon remarquable de parler d'une chose qui nous manque. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais aussi bien d'une chose qu'en faisant entendre à quel point elle nous manque. Et finalement, ce livre, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une manière aussi que j'ai eue, un peu pudique, de dire le manque de cette relation une fois cet ami disparu. Je le dis d'ailleurs, je crois au début, que je n'imaginais pas, et c'est vrai, à quel point il pouvait être difficile de perdre un ami, quand c'est véritablement un ami.
De la pudeur, et pourtant vous vous livrez aussi dans ce texte.
Oui, c'est vrai.
Et justement, il y a la question du père, du vôtre. Mmh. On comprend, vous nous dites d'ailleurs hein, très rapidement que vous avez cherché pendant très longtemps à pouvoir avoir cette parole avec votre père. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, ce sujet-là, vous avez pu aborder aussi dans l'intimité avec Hubert ?
Ah oui, je vous parlais souvent de ça, c'est une question absolument majeure dans nos échanges. C'est drôle, vous voyez, j'étais psychanalyste, mais finalement, je pouvais m'adresser aussi à lui sur des choses très intimes.
Une forme d'analyse un peu commune, finalement.
Oui, tout à fait, c'est vrai. La différence qu'il y a eu entre Hubert et mon père, si vous voulez qu'on en dise quelques mots, Hubert était un homme silencieux, mais qui accueillait la parole.
Une capacité d'écoute, vous dites.
Ah oui, complètement, une grande capacité d'écoute, mais aussi d'écriture. Il m'arrivait de lui écrire des lettres. Ça m'arrivait souvent de lui écrire des lettres. Mon père était un homme silencieux, mais qui n'accueillait pas la parole. Mmh. Et d'une certaine façon, c'est vrai que j'ai eu une enfance où j'ai toujours essayé de le solliciter, d'obtenir de lui des mots, parce que quand vous n'avez pas de mots, des gens qui vous sentent plus proches, c'est quelque chose d'une épreuve difficile pour un enfant. Alors que là, avec Hubert, ce silence m'encourageait à lui dire... Je crois des choses que je n'aurais jamais pu dire véritablement directement à mon père. J'avais été longuement en analyse moi-même, mais je ne sais pas, c'est vrai que ce point particulier du père, je me suis rendu compte dans l'après-coup que je n'avais pas pu véritablement le développer comme j'aurais voulu. Et c'est avec Hubert que cette parole est venue.
Donc en parlant avec Hubert Mangarelli, oui. Vous avez aussi pu faire du chemin avec votre propre père.
Absolument. Et ça, je ne l'ai pas su sur le coup. Je ne l'ai su qu'après la disparition d'Hubert. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'a plus été là, j'ai eu un jour un désir irrépressible, mais complètement irrépressible, d'aller retourner voir mon vieux père, comme je dis dans le livre, qui a toujours tendance à se faire oublier, et à lui dire finalement quelque chose de tellement simple. C'est-à-dire par-delà la vie que nous avons eue, par-delà les échecs et les ratages de notre relation, finalement, ben oui, je t'aime. Toi, mon père, je t'aime. Et d'avoir pu énoncer ça, ça paraît une parole d'une banalité, d'une simplicité incroyable, ça a eu des effets inimaginables dans ma propre vie. Je crois que ça m'a autorisé à pouvoir dire l'amour quand j'aimais. Alors qu'avant, il me semble que c'était quelque chose qui ne pouvait pas franchir la barrière de mes lèvres.
Est-ce que c'est aussi ça que vous aviez vu dans le personnage principal du roman L'Arbre, justement, d'autoriser à aller au-delà des ombres, où on s'interdit d'aller ?
Oui, ce qui était pour moi, comment vous dire, décisif dans ce texte, c'était de faire entendre que dans l'existence, rien n'est définitif. Cet enfant ne peut pas se déplacer, ne peut pas aller de tel point à tel autre, etc. Ça, c'est pas une disposition définitive, radicale, une fois pour toutes. Dans l'existence, nous avons affaire très souvent à des choses que nous imaginons indépassables et qui ne le sont pas véritablement. Et je crois que c'est ce point de la volonté de cet enfant, dans ce livre, de dépasser sa propre condition, qui m'a beaucoup touché et qui m'a peut-être aussi autorisé à dépasser la mienne.
Dans l'arbre, justement, ce petit garçon, on le sent malmené quand même. On sent qu'il a des difficultés. Je ne sais pas si vous savez d'où vient l'inspiration de Mangarelli, justement, de l'arbre et même de ses personnages. J'aimerais mettre en perspective tout ce qu'on a pu dire à présent, même avec le personnage de l'arbre, avec un témoignage celui d'Hubert Mingarelli, justement. Un extrait d'un entretien qu'il avait accordé à France Culture dans l'émission La Grande Table. C'était en janvier 2015 et je vous propose qu'on l'écoute.
Je ne saurais pas parler de quelqu'un d'autre que de moi. En même temps, c'est paradoxal, j'aime pas parler de moi, mais tous mes personnages sont moi. Donc je les mets dans des situations que j'ai connues plus ou moins, surtout moins que plus. Mais leurs réactions devant un événement, sont toujours les miennes. Voilà, je me mets à leur place, je me mets tellement à leur place que je finis par être eux.
D'abord, je vous remercie beaucoup de me rappeler la matérialité de sa voix. Je ne l'ai jamais réentendu après sa disparition, sa voix. Et donc déjà, c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Le fait qu'il dise que tous ces personnages, c'est lui. C'est absolument vrai, c'est lui. Alors il dit c'est mon moi. Alors en tant qu'analyste, je dirais non, c'est pas son moi. C'est encore plus profond que son moi. C'est ce sujet de l'inconscient absolument phénoménal. Vous voyez, c'est pas simplement son moi qui est, parce que finalement notre moi, c'est un peu notre vêtement social. Bon, ça va. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est son propre sujet qui en quelque sorte se déploie dans ces textes.
Oui. Vous pensez qu'à travers l'écriture, on est beaucoup plus sincère, beaucoup plus en lien justement avec ce moi très profond ?
Je pense, je vais vous dire une formule, peut-être on pourra l'expliciter si elle vous semble un peu obscure. Je crois que dans l'écriture, lorsque l'on écrit, l'écriture c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire que ce qu'on a toujours tendance à mettre de côté, à ignorer, à ne pas vouloir savoir, parce que ça nous dérange.
Ou à savoir mais ne pas le dire.
À savoir et à ne pas le dire, à ne pas forcément toujours le reconnaître. Eh bien ça, ça nous revient dans l'écriture, malgré nous.
Donc vous qui avez lu l'ensemble de l'œuvre de Mingarelli, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Je crois qu'il travaille, et c'est en ce sens que c'est pour, à mon sens, un très grand écrivain. Vous savez qu'il a été publié et traduit dans de nombreuses langues
étrangères.
Oui, même
jusqu'au Japon.
Jusqu'au Japon.
Où il était beaucoup apprécié.
Il était très apprécié pour la dimension très concise de ses paroles, qui ressemble beaucoup à l'haïku, qui ressemble beaucoup à ses peintures, vous savez, à peine esquissées, comme savent si bien faire les Japonais. Je pense que dans tous ses textes, et c'est en ce sens qu'il y a une dimension universelle dans ce qu'il écrit, il touche des questions qui nous concernent tous, et qu'on a du mal à se poser. Par exemple, vous savez, vers la fin de son œuvre, il a beaucoup travaillé autour de personnages pris dans des dilemmes qui concernent la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient... Comment se fait-il que quelqu'un de banal, de quelqu'un comme tout le monde, puisse devenir par exemple un bourreau et puisse assumer d'être un salaud dans l'existence ? C'était ce genre de questions qui taraudait, qui frappait à sa porte. Parce que ce sont des questions humaines essentielles. Bien sûr, nous sommes dans un monde tranquille, on n'est pas en guerre, on n'est pas sous une dictature, donc voilà, on est tous à peu près dans la même trempe, dans le même rapport au monde, mais on ne sait pas comment on réagirait dans certaines circonstances, on n'en a aucune idée.
Donc c'est à travers des grandes questions sociétales aussi qu'on peut mieux comprendre Mingarelli.
Oui, à travers des grandes questions, et puis tout ce qui se joue dans l'intimité d'un personnage, la manière dont ce personnage va s'en débrouiller ou pas, la façon dont il va ou non résoudre les problèmes que la vie lui pose. C'est ça qu'il y a dans tous les textes d'Hubert. Et c'est en ce sens qu'il y a quelque chose de didactique aussi. Je vais dire dialectique, mais aussi didactique. C'est-à-dire que ce sont des textes qui nous apprennent quelque chose, qui nous apprennent quelque chose de nous. Parce qu'Hubert, c'est quelqu'un comme nous.
Mingarelli était bercé par la littérature américaine.
Oui.
Une littérature qu'on dit plus souvent écrite avec les tripes plus qu'avec la tête, comme la littérature européenne par exemple. Est-ce que c'est aussi ce qui faisait que vous étiez attaché à la littérature d'Hubert, ce côté peut-être plus brut, tout en étant dans une économie de mots également ?
Alors j'ai une partie de mon existence qui s'est faite, c'est vrai, dans la langue anglo-saxonne, qui a été une langue très importante, qui m'a permis d'articuler peut-être des choses que je n'arrivais pas à articuler en français. La langue étrangère anglaise, pour des raisons historiques, mais aussi de façon plus personnelle, c'est une langue qui m'a permis un certain détour pour reconnaître le français comme étant ma véritable langue maternelle.
Vous avez dû comme vous exiler de votre propre langue,
oui,
pour mieux la comprendre.
C'est ça. Et pour y revenir autrement, pour venir l'habiter autrement, cette langue. Donc déjà, chez Hubert, le fait que la littérature lui soit venue à travers des auteurs américains ne m'était pas indifférent du tout.
Mmh.
Et puis la manière dont il les a découverts aussi, je trouvais ça quand même assez incroyable. Vous savez que très jeune, il s'est retrouvé engagé dans la marine nationale. C'est quelqu'un qui n'avait pas réussi à trouver sa place à l'école. L'école ne lui avait pas permis de déployer ses ailes, de trouver son chemin. Et donc, il est parti assez vite de l'école. Et sur un bateau où vraiment rien n'était fait pour qu'il découvre la littérature, il y avait quelques livres posés là, dont il s'est saisi. Et grâce à ce saisissement, quelque chose d'une porte nouvelle, d'une fenêtre a pu s'ouvrir pour lui. Et une fenêtre tellement déterminante que toute sa vie en a été changée d'une certaine façon.
Et il évoque justement Jack Kerouac,
oui,
sur la route, notamment, parmi d'autres. Vous, très jeune, Gérard, ça a été Marguerite Duras, la grande rencontre en littérature. D'abord, pourquoi Marguerite Duras ? Quel était le déclenchement, peut-être différent que de l'arbre de Magali, on le devine, mais qu'est-ce qui vous a émerveillé dans l'œuvre de Duras ?
Vous savez, quand on est confronté à quelque chose d'une difficulté subjective dans la vie. Moi, j'étais un enfant seul, je n'avais pas de frères et sœurs, j'avais des parents qui ne se parlaient pas. Donc il y avait chez moi quelque chose d'une tristesse très profonde et d'une solitude immense.
Mmh.
Et l'enfant, devant cela, vous savez, a vite fait de se trouver différent des autres, de se marginaliser vis-à-vis des autres, et aussi de pouvoir imaginer qu'il est dingue, qu'il est fou, qu'il est... Voyez, parce qu'il est pas comme les autres. Et donc, un jour, vers l'âge de 14 ou 15 ans, j'ouvre un livre de Duras, et là, je tombe en arrêt parce que je me rends compte que les tourments qui me traversent, que les douleurs d'exister que je subis, que je rencontre, en fait, il y a plein de gens qui vivent ça aussi. Il y a plein de gens, non seulement qui le vivent, mais qui ont une forme de génie pour en rendre compte, pour le faire entendre. Et à partir de ce moment-là, quelque chose me concernant, tout d'un coup, se met en route. C'est-à-dire que quelque chose, voyez-vous, de l'autorisation à vivre, m'est venu grâce à ces textes-là.
Quel a été le premier livre de Duras que vous avez lu ? Parce que vous parlez du ravissement de Wittgenstein.
Oui.
Moi, je sais que j'ai rencontré Duras par le barrage.
Contre le Pacifique.
Voilà.
Je l'ai découverte à travers, justement, des tout petits textes qui étaient à l'époque publiés chez Minuit.
Oui.
Je crois que c'était ou L'Homme Atlantique, ou en même temps, d'ailleurs, L'Homme Atlantique, La Maladie de la Mort, La Pute de la Côte Normande, qui sont de tout petits textes, mais très fulgurants, où là, cette femme ose vraiment dire des choses d'une intimité incroyable, même son fantasme sexuel. Enfin, je veux dire, elle dit tout ça, elle nous donne ça. C'est un cadeau d'oser nous donner ça. Et vraiment, je me souviens, j'étais allé avec des amis sur un littoral, je crois, en Méditerranée. J'ai lu ça, et vraiment, mais ce jour-là, j'ai su que ma vie allait être différente de ce que j'imaginais qu'elle allait être.
En lisant des mots.
Oui.
Et vous êtes à la recherche des mots dans la parole.
Oui.
La boucle est presque bouclée, docteur.
Mais c'est exactement la même quête. Je crois que c'est la même quête. C'est la même quête, mais il est vrai aussi que pour aller à la rencontre des mots des autres, il faut aussi avoir accepté d'aller à la découverte de ses propres mots, des mots qui nous pétrissent, qui nous sculptent, qui nous constituent. Si on ne les a pas connus, ces mots-là, on ne sait pas donner la gravité aux mots des autres. Et c'est en donnant la gravité aux mots des autres, c'est-à-dire en acceptant d'être l'adresse de tous ces mots avec toute cette ambiguïté, M-O-T-S et M-A-U-X,
oui,
c'est en acceptant d'être l'adresse de cela que quelque chose peut changer chez quelqu'un. C'est-à-dire, vous voyez que le projet de la psychanalyse, c'est pas du tout un projet, je vais utiliser un terme médical, de guérison. La guérison, c'est un peu court comme ambition pour quelqu'un. C'est beaucoup plus qu'une question de guérison. C'est de permettre de trouver un chemin dans le désir, d'ailleurs, qui va faire que la vie va vouloir dire quelque chose pour soi déjà, ce qui est quand même énorme. C'est quand même énorme. Combien de vies ne veulent rien dire? Pour combien de monde? C'est assez terrifiant, ça. On peut parfois, dans des moments de notre existence, se trouver dans des entre-deux où on a le sentiment que notre vie ne veut rien dire, ne veut plus signifier quoi que ce soit, qu'elle est un peu en perdition, en attente, en panne de quelque chose. Quand la dimension de ce moteur s'enclenche et se découvre, je veux dire que quelque chose d'un axe s'ouvre devant vous, et il faut juste avoir un peu le courage de le suivre, ce qui n'est pas toujours non plus une donnée simple. On peut vouloir se satisfaire des choses conventionnelles plutôt que d'accepter de suivre sa singularité, qui, singularité, ne vous met pas toujours en relation simple avec les autres. Quand on suit un peu un chemin singulier, il faut aussi accepter de ne pas être aimé par les autres, de ne pas forcément être apprécié, etc. Mais peu importe, peu importe. Votre chemin est là, il n'est pas ailleurs, et il faut le reconnaître.
Alors ce qui est drôle, c'est que vous terminez là-dessus, et c'est quelque chose qui vous a presque été un poids à vous écouter durant votre enfance, justement, d'être un peu marginal. Et finalement, aujourd'hui, effectivement, on comprend la difficulté d'être seul et d'être justement ce marginal. Et aujourd'hui, de plus en plus, même en littérature, c'est quelque chose qui revient énormément, d'être celui qui va peut-être oser faire un pas de côté. Mmh. Je vais prendre en exemple le dernier carnet de voyage de Sylvain Tesson, qui s'appelle « Les piliers de la mer », et il fait la philosophie du stack, donc cette fameuse colonne de pierre qui s'avance au loin dans le littoral. Mmh. Et il dit justement, nous devrions tous être des stacks, à faire un pas de côté, à être un peu ce marginal, à sortir du carcan de la société, d'être nous-mêmes, finalement. Mmh. Et c'est aussi, quelque part, ce qu'incarnait très bien, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, Mangarelli, c'est qu'il était cet auteur qui était publié, oui, mais loin, il était en dehors des rentrées littéraires, donc loin de l'effervescence des grands prix. Il aimait être dans ses terres, donc à quelques kilomètres de Grenoble, loin du monde, très peu de rencontres littéraires. Finalement, le marginal n'a-t-il pas plus raison que les autres?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette lecture, Thomas. Simplement, c'est quelque chose qu'on peut se dire quand on est parvenu à établir un peu quelque chose de son existence, qu'on soit un petit peu assis sur quelque chose. Quand on est un enfant, qu'on découvre le monde, c'est très difficile de se dire qu'on n'est peut-être pas exactement comme les autres. C'est difficile à assumer. Mmh. Et puis, vous savez bien qu'il y a un âge où l'enfance est d'une cruauté terrible aussi. Alors, il faut trouver des moyens d'être différent des autres et en même temps de s'en faire accepter. C'est ça le grand enjeu dans l'enfance. Moi, il se trouve qu'à l'époque, je me débrouillais plutôt assez bien à l'école. Et donc, c'était un moyen que j'avais trouvé pour me concilier les autres. J'aidais tout le monde. J'aidais les autres. Mmh. Moyennant quoi, on me laissait dans mon chemin un peu singulier. Mmh. C'était pas mal comme idée.
Alors, très jeune, donc, vous rencontrez Marguerite Duras par la littérature.
Oui.
Vous évoquez justement dans votre récit vos dialogues de littérature entre Hubert et vous.
Oui.
Et lui, Duras, c'était complètement impossible. Une sainte horreur de Marguerite Duras.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il avait de durassien, Hubert Mangarelli?
Oui, c'est une question très pertinente que vous me posez. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était quasiment épidermique pour lui, mais peut-être aussi parce que... Alors, il y a quelque chose qu'il disait tout le temps, c'est qu'il supportait très mal de repérer les ficelles de l'écriture chez un écrivain.
Ah, trop visible alors chez Duras?
Pour lui, c'était trop visible chez Duras.
Ce n'était donc pas le contenu de ce qu'elle pouvait écrire,
non,
mais plutôt le procédé.
Je crois que c'était le procédé. Il avait peut-être pas tort. C'est vrai qu'à la fin de la vie de Duras, des gens ont pu la critiquer en disant qu'elle faisait du Duras, par exemple.
Oui, on dit souvent que la deuxième partie de son œuvre est une vague copie de la première Duras.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne supportait pas. Parce que lui, il essayait tout le temps, justement, d'innover. D'innover dans les histoires, d'innover dans le chemin qu'il proposait au lecteur.
Il part de la poésie pour venir au récit, qui renouvelle d'ailleurs aussi.
Oui, et même avant la poésie, il y avait eu la musique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui cherchait un média, un moyen de faire entendre quelque chose. Donc vis-à-vis de cela, Duras, c'était impossible pour lui. Et pourtant, moi qui étais dans un amour absolu de Duras, c'était difficile. Et alors je la défendais du mieux que je pouvais. Et je me suis aussi rendu compte que, vous voyez, quand on est très touché subjectivement par quelque chose, on est parfois dans l'incapacité la plus grande à expliquer pourquoi. Il y a quelque chose qui nous échappe, il y a un réel qui nous échappe, il y a quelque chose qui fait trop pour nous. Et je n'ai jamais été un si bon défenseur de Duras que ça auprès d'Hubert, non.
En plus, en amitié, c'est parfois difficile, parce qu'au bout d'un moment, on lâche l'affaire.
On lâche l'affaire, et puis on avait plein d'autres choses à se dire aussi.
Alors, quels étaient les écrivains fétiches d'Hubert Mangarelli?
Oh, la plupart des écrivains américains.
Oui.
Il m'a très très peu parlé des écrivains...
Français?
Non.
Ou francophones?
Non. Européens non plus. Il aimait beaucoup pour faire un feu de...
Alors c'est un écrivain. Jack London ?
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est un texte très concis. C'est un des textes, d'ailleurs, un des premiers textes qu'il m'a offert et que nous avons lu ensemble. Mm-hmm. Le petit crayon à la main, soulignant les points importants du texte. C'est vrai que c'est une très belle métaphore. C'est aussi une très jolie métaphore de ce moteur dont je parlais tout à l'heure. Quand vous êtes au milieu d'une immensité blanche et glacée, que votre vie tient à un fil et que vous n'êtes pas capable de faire un feu, ça va mal tourner pour vous. Mais je veux dire que ce feu, cette construction, cette chaleur, enfin, c'est une métaphore de la vie au milieu d'un monde hostile, d'une certaine façon. Et je crois que Hubert Mangarelli, dans ses textes et dans ses écrits, ça a été sa manière à lui de faire ce feu qui a alimenté son existence et qui nous a aussi alimenté, nous, dans la nôtre.
Et on comprend très vite que dans votre relation d'amitié et de réflexion, donc vous vous répondez, vous vous interrogez sur ce qu'est l'écriture, quand Hubert Mangarelli s'interroge sur ce qu'est la parole. Dans les deux cas, vous vous interrogez sur les mots, leur naissance, leur emploi, leur façon d'être employé, à travers différents modes, on a pu en parler pour Hubert Mangarelli, la musique, l'écriture, sous diverses formes. Est-ce que vous avez fini par comprendre tous les deux d'où venait cette soif des connaissances de l'origine des mots et de leur emploi? Parce que vous avez percé un mystère.
Mais je crois que c'est ça qui nous fait humains, tout simplement. C'est parce que c'est ça, c'est cette matière-là qui nous fait humains. J'ai entendu chez lui quelque chose que je n'avais pas entendu chez Freud, que je n'avais pas entendu chez Lacan, qui est dans l'arbre. C'est, par exemple, que une phobie, qu'est-ce que c'est? C'est pas la peur d'une chose, on croit que c'est la peur d'un espace, la peur d'un... Non, c'est pas là que ça se situe. C'est un mode de relation particulière avec les mots. C'est une modalité particulière de relation avec les mots qui fait qu'il y a des zones où vous pouvez vous aventurer et des zones où vous ne pouvez pas aller du tout. Et si vous voulez, il le raconte, il dit « Mais même moi, quand j'écris une phrase, le problème, c'est pas la phrase que j'écris, c'est la phrase qui est avant, c'est la phrase qui est après, c'est la question de la succession de ces phrases. » Et il parle d'un point, aller d'un point à un autre, comme ce qui se passe bien souvent pour ces héros dans le texte, où ils doivent se rendre d'un lieu à l'autre, et il y a une difficulté sur ce trajet qui n'arrive pas à s'accomplir. Je crois que, vous voyez, dans la phobie, on pourrait aussi la ramener à ça, cette, la question de la phobie, de façon plus générale. On peut la ramener à quelque chose qui, dans la phrase, avant tout dans la phrase, avant que ça se manifeste dans l'espace, qui, dans la phrase, il y a une suite qui est difficile à inscrire, à entériner pour soi-même. C'est comme si le sujet, dans sa phobie, il était balancé comme ça entre les mots, et entre deux mots, il est dans une chute. Il tombe. Et Hubert raconte ça très 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 bien dans l'entretien que nous avions donné à Grignan. Ce rapport particulier que nous avons chacun avec les mots, c'est ça peut-être aussi qui m'intéressait dans son, dans ce qu'il pouvait me raconter. C'était de mesurer combien nous pouvons être différents les uns des autres dans notre rapport avec les mots qui nous portent, qui nous font vivre, qui nous donnent une existence. Cette relation avec les mots, elle est différente pour chacun. Et peut-être qu'une analyse, c'est aussi de parvenir à percer ce mystère pour quelqu'un. Qu'est-ce qui constitue la véritable particularité de son rapport avec les mots, qui pourtant sont là et font sa vie?
Quel est l'intérêt d'un psychanalyste d'avoir un ami écrivain? Parce qu'il y a forcément deux langages. Il y a le langage de l'amitié, comme vous avez pu l'entretenir avec Hubert Mangarelli, et le langage écrit d'Hubert Mangarelli.
Oui.
Même si j'ai pu dire qu'il se ressemble dans le côté très ramassé, très concis, où justement il disait même en entretien qu'il aimait habiter l'espace de ses phrases, être sûr que c'était complètement lui. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de... de différent que vous avez pu noter, de très intéressant aussi d'un point de vue psychanalytique, entre la parole orale et la parole écrite.
Ah oui, 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 il y a une différence massive, majeure.
Et qu'est-ce qu'elle dit de nous, justement, cette différence ?
Elle dit un écart. Elle dit un écart. Et cet écart nous est fondamental pour vivre. Nous l'oublions toujours. Hein, on pense comme ça qu'on peut faire coïncider notre désir inconscient avec notre conscience, qu'on peut faire coïncider nos demandes et nos désirs, qu'on peut... Non. Ce qui est spécifique de l'être humain, c'est qu'il est habité par des écarts. Et que ces écarts, plus on veut les réduire, plus nous participons au malheur de l'homme. La dictature, par exemple, c'est un régime politique qui refuse les écarts qui vivent en chacun de nous. Il faut qu'on soit tous construits sur le même modèle, uniformément. Cet écart, Huber, bien sûr, le manifestait, comme je peux le manifester moi également, enfin, entre la parole et l'écriture, mais aussi, je crois que tout à l'heure je vous disais, ce rapport particulier de chacun avec les mots, mais il y a aussi un rapport particulier de chacun avec cet écart qui est en nous, qui vit en nous. Et l'amitié, pas seulement l'amitié d'ailleurs, je veux dire, nos relations de façon générale avec les autres, elles peuvent considérablement s'enrichir si on accepte que cet écart chez l'autre n'est pas le même écart que chez moi. C'est-à-dire qu'il y a chez l'autre une forme d'altérité radicale qu'on ne pourra jamais véritablement complètement approcher. C'est une radicalité vraiment foncière. Et pourtant, nous ne pouvons pas vivre seulement avec des gens comme nous. Je veux dire, ce serait d'un ennuyeux absolu. Donc je crois que la rencontre amicale, c'est aussi de reconnaître cette faille chez l'autre et sa particularité. Et que l'autre reconnaisse votre propre faille et sa particularité. Et au fond, l'échange, les sentiments, l'attachement, vient de cette reconnaissance réciproque de cette faille chez l'autre, je crois vraiment ça.
Écrire, vous l'aviez dit, c'est ce qui est refoulé. Ce qui permet de dire ce qui est refoulé. Est-ce qu'en écrivant, on est aussi plus proche d'une vérité ?
Oui,
grand terme philosophique, question philosophique qu'est la vérité. Est-ce qu'avec l'écriture, comme on a déjà parlé de ce décalage entre ces deux paroles, est-ce que c'est une vérité ?
C'est une vérité qui n'a pas prétention à l'universalité, bien sûr. C'est une vérité qui concerne notre subjectivité.
Un individu.
Oui, c'est notre particularité en tant que nous ne sommes pas comme les autres. Mais approcher cette vérité ne veut pas forcément dire qu'on puisse l'expliciter, cette vérité. Elle reste quand même mystérieuse.
Même en étant couché sur le papier.
Oui, parce que même quand vous vous lisez, il y a des choses que vous pouvez lire de vous que vous ne reconnaissez pas.
Ou que vous ne dites pas, que vous ne rajoutez pas aux phrases.
Ou même si vous les avez rajoutées, moi je vais vous dire quand je reprends mon livre, c'est là où on voit le génie par exemple de Rimbaud. Je et un autre. C'est-à-dire que, oui, vous lisez, vous savez que c'est vous qui avez écrit, vous vous rappelez le moment où vous l'avez fait, vous vous rappelez même comment vous l'avez fait. Et pourtant, quand vous lisez vos phrases, il y a quelque chose qui vous sonne un peu comme si c'était étranger. Comme si ça vient d'un autre endroit, d'un lieu étranger, d'un lieu autre.
Cet étranger, c'est pas justement le moi profond dont on parlait.
C'est l'inconscient, oui. C'est ça. Et c'est en ce sens qu'écrire, c'est ramener ce qui est refoulé et qui, bien que ce soit écrit, reste toujours un peu... à l'écart de vous-même.
Il y a aussi une dimension tragique dans ce récit, forcément, parce que vous écrivez à quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un qui forcément ne lira pas ce texte. Comment vous concevez cette notion que ce texte, qui est une véritable déclaration d'amour à un ami, ne pourra pas le lire ?
Oui, c'est la question aussi de ce que l'on ose dire et ne pas dire.
Du vivant des personnes.
Du vivant des personnes, je crois que c'est ça. Qui est fondamental.
Pour vous, c'était impossible de dire à Hubert Mingarelli que c'était un ami auquel vous teniez particulièrement ?
Il le savait.
Mais ce n'était pas explicite ?
Non, ce n'était pas explicite, non. Il le savait, et je savais aussi qu'il tenait beaucoup à notre relation, mais oui, ce sont des choses qu'on ne se disait pas, véritablement, explicitement, même si on avait un grand plaisir à se retrouver, à discuter, à... ça c'était indéniable, mais oui, ça ne se disait pas.
Ces mots-là étaient impossibles.
impossible, où, vous savez, des fois, on est dans une forme d'imagination que la vie est infinie, qu'on n'est pas mortel. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'il allait disparaître si vite.
Oui, et puis il faut aussi préciser à ceux qui nous écoutent que vous apprenez le décès du Mama Garelli de manière assez brutale.
Voilà, de façon très brutale.
Le 26 janvier 2020, on vous appelle, on vous dit « Mama Garelli vient de partir ».
Tout à fait. Il a voulu, je crois, c'était la pudeur de cet homme, lorsqu'il s'est su très malade, il a voulu d'une certaine façon partir sur la pointe des pieds, ne pas peser auprès de ceux qui avaient pu compter pour lui. C'est en ce sens, si vous voulez, quand je vous disais que l'écriture, ça peut être le retour de ce qui a été refoulé, c'est que je trouve peut-être que ce que j'ai pu connaître de sa fin était très proche des personnages de ses livres, qui sont toujours des personnages que l'on suit un temps et puis qui tout à coup disparaissent sans prévenir.
Oui. Alors du coup, pour en revenir à ma question, comment vous concevez ce livre qui ne sera pas lu ? Comment vous le percevez ?
Oui, je le conçois comme ces paroles que l'on doit dire, que l'on doit toujours dire si on est honnête, même quand celui à qui on doit les dire n'est plus là pour les entendre. Mais l'adresse subsiste. Vous voyez, ce livre a été écrit pour moi dans une adresse et une fidélité aux entretiens, aux échanges que nous avions avec Hubert. C'est exactement de la teneur de ce que nous avons... de ce que nous avons vécu ensemble.
Et c'est justement ce que vous précisez aussi à page 57. Vous dites, ce qui me rongera à tout jamais, le point le plus délicat, c'est que nous ne nous sommes pas revus à la fin et que nous n'avons pas pu nous dire adieu. Je n'ai pas pu lui dire, bien qu'il le sût, combien je tenais à lui, combien je l'aimais. Quand il n'allait pas bien, il n'aurait osé appeler quiconque pour le faire savoir. D'ailleurs, il ne le fit pas. Il s'était effacé discrètement et après s'être débattu avec un courage contre une implacable maladie, il partit sans le moindre tumulte. Tous les témoins sont unanimes à ce sujet, non dans une sorte de résignation ultime, mais avec l'humble réserve d'un homme acceptant son sort. Je ne sais pas si je parviendrai à admettre ce qu'il m'a appris de la solitude absolue dans laquelle certains vivent et meurent aussi. Il s'était éteint avec la même détermination dans le style des héros de ses romans. C'est ce que vous nous disiez. Le récit que nous avons entre les mains aujourd'hui, s'est-il imposé pour vous comme une nécessité ?
Il s'est même imposé comme quelque chose d'un acte manqué. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé d'écrire, ça s'est écrit tout seul. Je n'ai pas du tout planifié l'écriture du livre. Je n'ai pas du tout organisé un plan ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné, j'ai pris mon stylo, ma feuille, j'ai commencé la première phrase et ça s'est arrêté à la dernière.
Il y a eu un besoin.
Ah, c'était même un désir, c'était quelque chose de nécessaire, on va dire.
Oui. Une façon peut-être de faire votre deuil aussi, ou du moins de le commencer.
Ça l'a accompagné.
Oui.
Ça l'a accompagné, ce deuil. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai encore énormément de difficultés à relire le livre.
On imagine. Perdre un ami, comme en tout cas vous le décrivez dans ce récit. Est-ce que justement ce livre, par ses mots manqués, de ne pas avoir pu lui dire au revoir de son vivant, c'est votre façon de lui dire adieu ?
Absolument, absolument. J'ai même eu quelque chose qui va vous sembler saugrenu. Je suis quelqu'un d'athée, donc je ne suis pas du tout de... Eh bien, ça fait un moment que je me dis, ce livre, je vais l'amener sur l'endroit où il repose. Je vais le déposer à l'endroit où il repose, oui.
Mais là, on touche quand même du doigt aussi un autre sujet que je ne pensais pas qu'on allait venir là-dessus, mais c'est aussi la question du deuil. C'est quelque chose qui est très importante dans notre construction humaine, à la fois brutale parce qu'il s'impose par la vie. En littérature, il y a beaucoup de textes maintenant qui reviennent justement sur ce deuil. Moi, je me souviens avoir fait une chronique sur le journal de deuil de Roland Barthes, lorsqu'il perd sa maman. Dans des tout petites strophes, il raconte ce qui est impossible et pourtant commun à tout le monde. Cette place du deuil, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais vraiment à saisir, finalement.
Oui.
Dans un temps long, est-ce qu'on fait son deuil toute sa vie ? Certains disent on fait son deuil, et puis au bout d'un moment, c'est fini. La question de la mort en littérature est inépuisable.
Moi, je ne crois pas qu'on fasse son deuil et puis que ce soit fini. Vous voyez ? Je crois que une authentique perte, ça se transforme, bien sûr. C'est pas la même douleur qu'au départ. Une perte devient un manque, mais le manque fait quand même exister toujours l'autre, d'une certaine façon. Donc ça ne s'arrête pas. On a été marqué au fer rouge par certaines relations que nous avons eues, que nous avons pu connaître. Et ça subsistera toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Et puis le deuil, si vous voulez, c'est une question très complexe, parce que on a toujours tendance à rabattre le deuil sur la perte de quelqu'un, de proche. Or, il y a quelque chose que l'on oublie, mais là, c'est le psychanalyste qui parle, c'est plus celui qui a écrit peut-être le livre.
Oui, mais votre récit, il faut le préciser aussi, alterne entre des notions de psychanalyse.
Oui, c'est vrai.
Les deux sont étroitement mêlés, et c'est aussi ce qui faisait le ciment de votre relation, de votre amitié.
C'est vrai, donc je m'autorise à dire ça.
Il le faut.
Alors, il le faut. Le deuil, c'est pas forcément quelque chose que l'on rencontre seulement sur notre chemin. C'est par aussi le deuil que nous entrons dans la vie. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un enfant se met à parler, c'est qu'il accepte de perdre quelque chose. Parce que la parole, c'est déjà ce qui se substitue à quelque chose qui a été perdu dans une présence réelle. Pouvoir parler, c'est pouvoir évoquer ce qui n'est pas. Pouvoir parler, c'est aussi pouvoir évoquer la disparition d'une chose qui pèse trop dans notre présent. La parole nous permet de faire l'inverse de notre rapport aux objets du monde. Et donc on entre dans la vie, on entre dans la parole, on entre dans l'envie de savoir, on entre dans l'envie d'apprendre, par le fait aussi de consentir à une perte dès le départ. Et sans doute que les pertes que nous répétons dans l'existence, à travers les êtres chers qui disparaissent, elles ont, ces pertes, une valeur par elles-mêmes, mais aussi une valeur supplémentaire en ce sens qu'elles font écho, ces pertes actuelles de notre vie, elles font écho à cette perte primitive par laquelle nous sommes entrés dans le monde. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de l'ordre de la douleur, mais aussi quelque chose qui nous rappelle nos propres fondations. Il y a une sorte d'ambiguïté autour de cette notion du deuil, quand même, je crois.
Vous dites que vous souhaitez apporter le texte sur l'endroit où repose Imam Magarelli. Est-ce qu'il est forcément nécessaire de croire en une religion pour se recueillir? Parce que dans votre façon d'avoir abordé ça, j'ai eu l'impression que vous ne l'autorisez pas forcément à le faire, parce qu'il faudrait forcément croire en un paradis ou quelque chose d'une religion pour pouvoir oser se recueillir et oser peut-être faire quelque chose de plus symbolique qu'uniquement être devant une tombe et ressasser des souvenirs.
Oui, non, mais je suis bien d'accord avec ça. Non, bien sûr qu'on peut ça. Et puis je vous dis bien, on peut s'adresser même
À ceux qui nous ont quittés.
Oui, à ceux qui nous ont quittés. On n'est pas obligé d'avoir un arsenal explicatif, psychologique ou théorique pour ça. Oui, c'est cette dimension importante de l'adresse, de s'adresser. D'ailleurs, la prière, vous savez, c'est ça, hein, la prière, c'est de s'adresser. Une prière, c'est s'adresser, c'est
mais
demander.
C'est une parole qui n'est pas écoutée, ou que l'on croit écouter.
Qu'on peut croire écouter, oui. Mais c'est quand même, le premier mouvement, c'est quand même cette adresse, de vouloir s'adresser à. Et ça, je crois que l'on soit croyant ou que l'on soit laïque, nous avons tous ça en nous, tous.
Est-ce qu'écrire ce texte a apaisé vos souffrances?
Alors,
c'est un mot qui est très fort, je le conçois.
Très fort, très fort.
Mais c'est aussi ce sentiment que j'ai eu à la fin de la lecture de votre livre. C'est que ça a été une amitié qui était tellement forte, tellement riche, très complète. Je le disais, vous avez grandi en parallèle. Donc, est-ce que c'était une perte en plus que vous avez appris brutalement dans cette période qui était compliquée parce qu'on approchait de la période du Covid? Est-ce qu'écrire ce texte, on a bien senti aussi l'urgence qu'il y a eu pour vous d'écrire, est-ce que ça a apaisé vos souffrances?
Alors, je vais vous inviter à un tout petit déplacement. Je préfère le terme douleur à souffrance. Pourquoi? Je crois que la souffrance a toujours quand même quelque chose d'un peu imaginaire.
D'accord.
Qu'on peut majorer dans quelque chose, oui, d'imaginaire, alors que la douleur, c'est quelque chose de plus symbolique. La souffrance, elle se manifeste souvent par des choses visibles. La douleur, elle peut être tout à fait discrète et néanmoins tout aussi puissante. Donc, est-ce que ce livre a eu un effet sur ma douleur? Oui, je crois que ça a eu un effet sur ma douleur, tout en sachant en même temps que je n'ai jamais forcément voulu, je ne considère pas que ce soit un aboutissement de se débarrasser de sa douleur parce que je crois que la douleur, c'est ce qui nous rend aussi un peu intelligents et sensibles avec les autres. La douleur d'exister, justement, puisque vous me parliez de Marguerite Duras.
Oui, la douleur.
La douleur, c'est un des titres de ses livres.
Oui.
Et je crois que ce qui transpire dans son texte, c'est sa douleur d'exister, la douleur de ses personnages.
Et des autres.
Et des autres. Et que c'est ça aussi qui a donné une intelligence très vive à ce qu'elle a pu écrire. Donc moi, je ne suis pas du tout, j'ai envie de dire, dans un fantasme de thérapeute qui devrait gommer la douleur.
Non, ce n'était pas non plus le jeu de ma question.
Non, mais j'en profite aussi pour dire ça. Et je crois même, je vais vous dire quelque chose, qu'il y a parfois des gens qui n'ont pas connu la douleur. Et de rencontrer la douleur d'exister, c'est un pas en avant pour eux, paradoxalement. Ce n'est pas un pas en arrière, c'est un pas en avant pour eux.
Il y a quelque chose aussi d'assez marquant entre votre texte pour dire adieu et les textes de Mangarelli, c'est qu'ils sont concis. Votre texte aussi est concis, peut-être que vous l'avez fait inconsciemment, sans le savoir. Donc là, on peut faire un parallèle entre l'écriture d'Hubert et la vôtre. Et puis, je le disais aussi plus tôt, durant cet entretien, vous avez cherché à comprendre avec Hubert ce qu'est l'écriture. Est-ce qu'avec ce texte, vous avez aussi percé des mystères d'écriture dont vous n'aviez pas encore eu la réponse ?
Je crois qu'il y a quelque chose qui échappe foncièrement dans un livre qu'on écrit. Je crois que ça subsiste, ça. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que il me semble que si on était parvenu à percer un mystère, peut-être qu'il n'y aurait plus d'autres livres ensuite, je ne sais pas.
Pour Hubert ? Ou même pour vous ?
Pour tout le monde, pour moi y compris. Voyez, je crois que c'est aussi parce qu'il y a une part qui ne s'atteint pas, qui reste dans l'ombre, quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaie d'en dire, il y a quand même quelque chose qui radicalement nous échappe, la psychanalyse dirait un réel, qui fait que finalement un livre, une fois terminé, il en appelle souvent un autre. Parce que le livre en lui-même n'épuise pas quelque chose, n'est-ce pas ? Plutôt que d'épuiser quelque chose, plutôt que de clôturer quelque chose, je crois qu'un livre vient ouvrir, vient majorer peut-être la question qui était à l'origine de son écriture, oui, il me semble.
Est-ce que nous pourrions résumer, si c'est possible, votre récit, votre amitié avec Hubert Mangarelli, avec cette phrase de Michel de Montaigne qui lève à l'endroit d'Étienne de la Boétie, son grand ami, parce que c'était lui, parce que c'était moi.
C'est une phrase extraordinaire, c'est vrai. C'est une phrase, voyez-vous, que j'aime beaucoup parce qu'elle nous extirpe complètement de nos catégories.
Donc c'est-à-dire que vous n'étiez plus psychanalyste, il n'était plus écrivain.
Non, absolument. Et c'est aussi vrai dans tout ce discours peut-être actuel sur les hommes, les femmes, la guerre des sexes, enfin toutes ces choses-là. C'est oublier la dimension de l'attachement, de l'amour. C'est-à-dire que quand on aime, que ce soit dans l'amitié, dans quelque chose de plus sexué, etc., forcément, c'est pas simplement parce qu'on relève de telle ou telle catégorie qu'on désire de telle ou telle manière. C'est aussi parce qu'il y a eu une certaine magie de la rencontre. Et autour de cette magie de la rencontre, il y a quelque chose qui est toujours sacré, quelque chose qui enveloppe une relation et qui excède totalement les individus que nous sommes, je crois.
Ce qui veut dire aussi qu'il faut arrêter peut-être cette tendance que nous avons aujourd'hui à préjuger les gens avant de les connaître.
Absolument, voire même, alors là vous allez trouver que j'abuse énormément, voire même à se persuader qu'on connaît les gens qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que même chez ceux que l'on connaît, il y a toujours aussi quelque chose que l'on ne connaît pas, au même titre que même chez nous, que nous croyons connaître, il y a certainement beaucoup de choses que nous ignorons. Et c'est de maintenir ouverte cette porte qui permet le mouvement de la vie. Parce que quand on pense aussi tellement connaître quelqu'un, ça arrête aussi quelque chose de cette quête vers l'autre. Donc je crois en effet que quelque chose nous échappe, nous échappera toujours, et c'est notre salut qui en dépend.
Pour dire adieu, récit d'une amitié avec l'écrivain Hubert Mangarelli, le nouveau livre de Gérard Ramiel, publié aux éditions Jaillet, et bien sûr à retrouver en librairie indépendante. Merci Gérard d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Un grand merci de votre accueil.
Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour ouvrir un mois de mars autour du programme littéraire La littérature et la mer. D'ici là, la capsule auditive de notre entretien du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8. À la rubrique de la librairie des étudiants, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'écrire la beauté de vos amitiés et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.